إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شرح سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الجنايات وفي ذكر شروط وجوب القصاص. نعم، فقال هنا المؤلف رحمه الله تعالى، الشرط الثالث: وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. قال الشيخ حفظه الله: وهذا هو الشرط الثالث، فلا يقتل الأب والأم لو قتلا ولدهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقتل والد بولده، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وأيضا من حديث عمر. قال ابن حجر في تلخيص: وفي إسناده الحجاج بن أرطات، وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدار قطني والبيحقي أصح منها، وفيه قصة، وصحها البيحقي سنده لأن رواته ثقات، وفي هذه الحال عليهما التعزير. طيب، donc on poursuit إن شاء الله تعالى l'explication de منهج السالكين de l'imam al-Sa'di rahimahullah. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant al-Jinayat. Concernant al-Jinayat. Tayyib. Et donc on avait commencé à mentionner les conditions de l'application du talion. Donc nous voyons aujourd'hui la troisième condition qui est, comme l'a dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala, que l'auteur de l'homicide ne soit pas le père de la victime, ne soit pas le père ou la mère de la victime. C'est-à-dire qu'on ne tue pas les parents. C'est-à-dire que les parents ne seront pas punis par la peine de mort ou le talion à cause de leur enfant ou par leur enfant pour le meurtre ou l'homicide sur leur enfant. Ça, c'est la troisième condition. D'accord ? Donc, on ne tue pas ni le père ni la mère si ils tuent leur enfant. Et cela, en vertu du hadith d'Ibn Abbas, qui remonterait jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait dit: on ne tue pas un père par rapport à son enfant. Donc ce hadith rapporté par Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah, et Tirmidhi a dit que c'est un hadith que nous connaissons remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement par le biais du hadith d'Ismaïl ibn Muslim al-Makki, sur lequel certains savants ont parlé et ont critiqué sa mémorisation. Donc le hadith rapporté par Tirmidhi de Majah, également avec une autre chaîne de transmission cette fois, remontant jusqu'à Omar radiyallahu anhu. Il dit Ibn Hajar dans At-Talkhis que dans sa chaîne de transmission il y a Al-Hajjaj ibn Artat, et ce hadith comporte également une autre chaîne, une autre voie de transmission auprès de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et une autre auprès de Dharqutni al-Bayhaqi, qui est encore plus authentique. Qui est encore plus authentique. Et donc, l'imam al-Bayhaqi a authentifié sa chaîne de transmission, car ses rapporteurs sont tous fiables. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, donc, bien sûr, les parents seront punis pour leur acte, mais ils ne seront pas donc sous la sentence de la peine de mort. Non. Taïb. الشرط الرابع قال ولا بد من ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين وهذا هو الشرط الرابع فلا بد من اتفاق أولياء الدم على طلب القصاص وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه فإذا استوفى بعضهم كان مستوفيا بحق غيره بغير إذنه ولا ولاية علي وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص لما روى زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر عتق الرجل من القتل أخرجه عبد الرزاق والبيحقي. طيب. Quatrième condition, dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, et il est impératif que tous les proches de la victime soient unanimes sur l'application de la peine de mort du talion. D'accord ? Il est impératif qu'il y ait consensus auprès des proches parents de la victime. On parle bien sûr de ceux qui sont responsables religieusement. Qu'ils soient tous d'accord. Ça, c'est la quatrième condition. Donc, il est obligatoire qu'il y ait un consensus, un accord mutuel entre tous les proches responsables religieusement de la victime sur la demande du talion. D'accord ? Et donc, il ne peut y avoir talion si certains des proches de la victime ne demandent pas le talion. D'accord ? Car la demande de talion, l'application du talion, est un droit qui est commun entre tous les proches de la victime, les proches responsables, religieusement. Et ce droit-là, il n'est pas possible de le fragmenter. Voyez ? Par conséquent, si certains proches font appliquer le talion alors que certains autres proches ne l'ont pas demandé et ne le veulent pas, ils auront appliqué le droit de d'autres personnes sans leur permission. Sans leur permission. Voyez, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et qu'ils ne détenaient pas yani, l'autorité en cela. Donc, autrement dit, si certains des associés proches responsables de la victime font grâce justement à l'auteur de cet homicide, eh bien, le talion ne pourra pas être appliqué. Et l'auteur ne subira pas la peine de mort. Et cela par rapport à ce qu'a rapporté Zayd ibn Wahb, rahimahullah ta'ala, comme quoi, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, on lui a amené un homme qui avait tué un autre homme. Et donc, les proches parents de la victime ont demandé le talion, excepté la sœur de la victime. La sœur de la victime, qui était aussi l'épouse de l'auteur de l'homicide. Donc je répète, on amena un homme à Omar, qui avait tué un autre homme. Donc les proches parents de la victime ont demandé le talion, excepté sa sœur, qui était aussi l'épouse de l'auteur de l'homicide. Et donc elle a dit, je gracie, yani, ou plutôt, je ne demande pas le talion, d'accord? Donc je l'absous de la peine de mort et j'abandonne mon droit au prix du sang, mon droit à obtenir le prix du sang de mon époux. Car encore une fois, l'auteur du crime était son époux et elle était aussi la sœur de la victime. Qu'est-ce qu'il a dit Omar? Radiallahu anhu, eh bien, il a répondu, l'homme est affranchi de son meurtre. L'homme est affranchi de son meurtre ou de son homicide. Donc ce hadith rapporté par Abd al-Razzaq ainsi que Al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhima. Thumma qala المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس والأمن من التعدي في الاستيفاء وهذا هو الشرط الخامس فلا يجوز أن يوقع القصاص على من لم تقع منه جناية فإذا وجب القصاص على حامل فلا تقتل حتى تضع لأن قتلها يتعدى إلى الجنين والجنين بريء وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال تعالى أيضا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها أخرجه مسلم طيب بيجي لوتر رحمه الله تعالى la cinquième condition il faut que si on doit appliquer le talion, que cela ne vient pas porter préjudice et porter atteinte à la vie yani, de quelqu'un d'autre qui n'a aucun lien avec le crime. D'accord? Ça, c'est la cinquième condition. Donc, il est bien sûr interdit d'appliquer le talion sur une personne qui n'a commis aucun crime, qui n'a aucun rapport avec le crime en question, ou l'homicide en question. Exemple, si le talion devait être appliqué sur une femme enceinte, d'accord? Une femme enceinte a tué quelqu'un, d'accord? Et toutes les conditions sont réunies pour que la peine de mort soit appliquée par le dirigeant musulman, dans un gouvernement musulman. Mais elle est enceinte. Donc est-ce qu'on va la tuer alors que le bébé, lui, il n'a rien à voir? Hein? Le bébé qui est dans son ventre, bien sûr, il est innocent. Donc est-ce qu'on pourra appliquer la peine de mort sur une femme enceinte? Ben non. Donc, on ne l'appliquera pas, mais on attendra qu'elle accouche, que son bébé naisse. Pourquoi? Parce que si on la tue, eh bien cela provoquerait la mort de ce bébé-là, alors qu'il est innocent de ce que sa mère a commis. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la sourate Al-An'am, verset 164, dans le sens du verset, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala justement par rapport à cette question? Et personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Le bébé, bien sûr, ne va pas subir la punition par rapport au crime de sa mère. D'accord? Naam. Il a dit également Allah tabarak wa ta'ala dans la surat Al-Isra, le verset 33, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Il dit, نعم، ومن قتل مظلوما، nous accordons à l'ayant droit de celui qui est tué injustement le pouvoir de réclamer justice, mais qu'il ne commette pas d'excès lors de l'exécution. Mais qu'il ne commette pas d'excès lors de l'exécution. D'accord? Donc le fait d'appliquer la peine de mort sur une femme qui est enceinte, cela bien sûr entrerait dans l'excès lors de l'application du talion. Et également le hadith d'Imran et Hussein, radiallahu anhu, qui a rapporté qu'une femme du clan de Juhayna vint voir le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'elle était enceinte de la fornication. Donc elle a commis zina, la fornication, et elle est tombée enceinte de cet acte-là. Donc elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement pour se repentir et pour reconnaître elle-même son acte et qu'on applique sur elle, hein, yani, la sentence, la peine légale par rapport à ce qu'elle avait fait. Donc elle dit, ô prophète d'Allah, j'ai fait quelque chose qui mérite la peine légale prévue par Allah tabarak wa ta'ala, applique-la donc sur moi. Subhanallah, regardez, cette femme commence à repentir, était sincère, et il était tellement sincère qu'elle est partie d'elle-même reconnaître ce qu'elle avait fait pour qu'on applique la peine légale sur elle. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a appelé son tuteur ou son responsable. Et il lui a dit, sois bienfaisant envers elle, et lorsqu'elle aura accouché, reviens me voir avec elle. Sois bienfaisant avec elle, nourris-la, sois bon avec elle, fais preuve de bonté, car elle s'est repentie sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'elle aura accouché, reviens me voir avec elle. Donc le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Thumma qala al-mu'allif, wa tuqtalu al-jama'atu bil-wahid. Wa tuqtalu al-jama'atu bil-wahid. Qal, أي إنه إذا قتل جماعة واحدا فإنهم يقتلون به لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه أن إنسانا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به 7 نفر وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني ولئلا يكون الاجتماع حيلة لإسقاط العقوبة. Puis dit l'auteur, et un groupe de gens peut aussi être puni par la peine de mort pour le meurtre d'une seule personne. Donc un groupe de gens, on peut appliquer sur ce groupe-là, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, la peine de mort sur eux s'ils ont participé au meurtre d'une seule personne. D'accord? Donc il dit ici, le cheikh Sulayman hafidhahullah ta'ala, donc lorsque un groupe de gens a tué une seule personne, eh bien on appliquera sur tous les membres de ce groupe la peine de mort.
Et si genre, il y a un groupe par exemple, de 6 personnes, et c'est une seule des 6 personnes qui a commis le meurtre, les 5 autres ils n'ont rien fait.
S'ils ont participé, ça veut dire qu'ils ont soit, je vous donne un exemple, il y a une personne qui a frappé la tête, l'autre elle a frappé le ventre, l'autre elle a frappé le dos, l'autre les jambes. Yani toutes les personnes qui ont participé à cet acte-là, yani, pourront subir la même peine. Hein?
S'ils ont seulement vu. Regardez comme ça.
Ça c'est autre chose. Moi je te parle de ceux qui ont participé. Donc ça peut être celui par exemple qui est en train de surveiller pendant que l'autre est en train de tuer. Il surveille. Eh bien il est dedans aussi. Il est concerné par cet acte. Il y en a un qui a fourni l'arme pour qu'on le tue. D'accord? Il ne l'a pas tué, mais c'est lui qui a fourni l'arme, qui lui a donné l'arme pour qu'il se fasse tuer par son collègue. Il est aussi impliqué dans le meurtre. Donc il dit, le hadith rapporté par Saïd ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala.
Et si il voit que c'est que les gens les frappent et que lui, il reste avec eux, mais il dit rien en fait. Mais lui, il fait rien, juste il les regarde. Enfin, il reste avec eux, il ne sait rien.
C'est ce qu'il vient de demander, j'ai répondu déjà. Donc il dit Saïd ibn Musayyib rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu qu'un homme a été tué à Sana'a. Sana'a, c'est une ville au Yémen. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait Omar radiyallahu anhu? Eh bien, il a tué 7 personnes. Il a appliqué la peine de mort sur 7 personnes donc qui étaient impliquées dans ce meurtre. Et qu'est-ce qu'il a dit Omar? Regardez, subhanallah, il a dit si les habitants de Sana'a, donc les habitants de la ville de Sana'a, qui est une grande ville, si les habitants de Sana'a s'étaient tous réunis afin de tuer cet homme, je les aurais tous tués. Et ni j'aurais appliqué la peine de mort sur tout le monde, sans exception. Vous voyez? Donc le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba, ainsi que Dharqutni. Et pourquoi? Et pourquoi il est important de faire appliquer cette règle? Eh bien, pour pas que les gens se réunissent pour tuer quelqu'un, d'accord? Se réunissent exprès, pour pas que l'on applique la peine de mort sur quelqu'un d'entre eux. Pour pas que ce soit une ruse de leur part, un stratagème, pour ne pas subir la peine de mort. Donc par rapport à ça, hein, lorsque des gens se réunissent et sont tous impliqués dans le meurtre de quelqu'un, voyez, eh bien, on appliquera sur chaque personne impliquée, sur chaque personne coupable du meurtre de la personne, la peine de mort. Wallahu ta'ala a'lam. C'est bon? Taïeb. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jalla. On finira, on clôturera même ce chapitre-là lundi prochain, bi'idhnillah azza wa jalla. Barakallahu fikum. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم.